Chapitre 21. Les tapis. Omad. Pas une trace de gris. La vie au cachot. 1. Au lieu de suivre le chemin emprunté à l'aller, Aaron me fit descendre 3 escaliers. Il marchait derrière moi, me donnant à l'occasion un petit coup de badine. J'étais une vache qu'on conduit dans son enclos. Un sentiment répugnant et humiliant, mais au moins, on ne m'emmenait pas à l'abattoir. J'étais le numéro 31, après tout, et précieux à ce titre. Je n'aurais su dire pourquoi, mais une idée avait commencé à prendre naissance dans mon esprit. 31 était un nombre premier, divisible uniquement par lui-même, alors que 32 était divisible jusqu'à 1. On passa devant une longue succession de portes, fermées pour la plupart, certaines ouvertes ou entr'ouvertes. Aucun bruit ne s'en échappait. Au cours de cette descente, j'éprouvais une impression d'abandon et de délabrement. Certes, il y avait les soldats de la nuit, néanmoins je devinais que le palais était peu habité. J'ignorais où on allait, mais au bout d'un moment je perçus le fracas d'une lourde machinerie et un martèlement sourd, régulier, semblable à des battements de cœur. J'aurais parié qu'on était descendu encore plus profondément que Deep Maline. Les brûleurs à gaz fixés au mur étaient de plus en plus espacés, et beaucoup crachotaient. Le temps qu'on atteigne le bas du 3e étage, le martèlement se faisait assourdissant et la machinerie encore plus bruyante, et il n'y avait presque plus que l'aura bleue d'Aaron comme source de lumière. Je levai le poing pour frapper à la porte située au pied de l'escalier, énergiquement, car je n'avais pas envie que cette foutue badine me fouette la nuque encore une fois.
« Non, non, » dit Aaron de son étrange voix insectoïde. « Ouvre. »
Je soulevai le loquet de fer, poussai le battant et me heurtai à un mur de bruit et de chaleur. Aaron m'obligea à entrer. Presque immédiatement, la sueur couvrit mon visage et mes bras. Je me retrouvai sur un parapet entouré d'un garde-fou à mi-hauteur. En contrebas, il y avait un espace circulaire. On aurait dit une salle de sport en enfer. 2 douzaines au moins d'hommes et de femmes à la peau grise marchaient à vive allure sur des tapis de course, une corde nouée autour du cou. 3 soldats de la nuit, munis de leurs badines, assistaient à la scène, avachis contre les murs de pierre. Un 4e, juché sur une sorte de podium, frappait sur un long tube en bois qui ressemblait à une conga. Dessus étaient peints des monarques qui saignaient. Je devais me tromper, car les papillons ne saignent pas, je pense. Juste en face de moi, au-delà des tapis de course, une machine faite de ventilateurs, de courroies et de pistons produisait un horrible vacarme en tremblotant sur son socle. Au-dessus était accrochée une unique lampe électrique, du genre de celle qu'utilisent les mécaniciens pour regarder sous le capot des voitures. Ce spectacle me rappelait les galères dans un de mes films préférés, Ben-Hur. Celles et ceux qui peinaient sur ces tapis de course étaient des esclaves, comme ces hommes qui ramaient à bord des galères. Sous mes yeux, une des femmes trébucha. Elle agrippa la corde qui cisaillait la peau de son cou et parvint à se redresser. 2 des soldats de la nuit se regardèrent et éclatèrent de rire.
« Tu n'as pas envie de te retrouver ici, hein, petit ?»
demanda Aaron dans mon dos. Je ne savais pas ce qui était le plus affreux. Ces prisonniers obligés de marcher à toute vitesse, ou la manière dont ces 2 hommes squelettes s'étaient esclaffés en voyant la femme perdre l'équilibre et s'étrangler. Aucune envie. Je me demandais quelle quantité d'énergie produisait ce générateur de fortune alimenté par des tapis de course. Pas beaucoup, devinai-je. Il y avait de l'électricité dans les appartements du grand intendant, mais je n'en avais pas vu ailleurs. Uniquement des brûleurs à gaz qui ne semblaient pas très en forme. Pendant combien de temps est-ce qu'il...
Il se relaie toutes les 12 heures.
Aaron n'avait pas prononcé le mot « heure », mais là encore, mon esprit avait traduit. Je comprenais l'empissarien, je le parlais, et je m'améliorais dans les 2 domaines. Je n'aurais pas été capable d'employer une expression populaire du genre « c'est génial, mais ça viendrait peut-être ».
« Sauf quand il y en a un qui s'étrangle », précisa Aaron. « Dans ce cas-là, on en a toujours plusieurs en réserve. » Allez, viens, petit. Tu as vu ce que tu devais voir. Faut y aller.
Je n'étais pas mécontent de quitter cet endroit, croyez-moi. Mais avant que je fasse demi-tour, la femme qui avait trébuché leva les yeux vers moi. Ses cheveux formaient des paquets de mèches collées par la sueur. Son visage disparaissait sous les plis et les bosses de chair grise, mais je perçus le désespoir sur ce qui restait de ses traits. Le spectacle de ce désespoir me mit-il autant en colère que celui de la sirène assassinée? Je n'en suis pas sûr, car tout ici me faisait enrager. Un beau pays avait été souillé, et voilà le résultat. Des individus sains enfermés dans des cachots, des personnes malades obligées de courir sur des tapis avec une corde autour du cou pour fournir de l'énergie au grand intendant et à quelques privilégiés peut-être, parmi lesquels figurait presque certainement l'homme ou la créature qui régnait sur tout ça, Flight Killer.
« Estime-toi heureux d'être sain, » dit Aaron. « Pour le moment, du moins. Peut-être que tu le regretteras plus tard. »
Et pour souligner ses paroles, il abattit sa badine sur ma nuque, ce qui rouvrit ma blessure. 2. Quelqu'un, Percy très certainement, notre gardien prisonnier de confiance, avait lancé une couverture sale dans la cellule que je partageais avec Ahmet. Je la secouais, délogeant par là même une jolie quantité de poux, de taille ordinaire pour autant que je pouvais en juger, et m'assis dessus. Ahmet était allongé sur le dos, il contemplait le plafond. Il avait une égratignure sur le front, une croûte de sang sous le nez et ses deux genoux étaient ouverts. La plaie de gauche avait laissé couler des filets de sang sur son tibia. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?»«
La récréation, » répondit-il d'une voix éteinte.
« Il a pas l'étoffe !»
dit Frémy dans la cellule voisine. Lui-même arborait un œil au beurre noir.
« Il l'a jamais eu !»
ajouta Stooks. Exception faite d'un hématome à la tempe, il paraissait indemne.
« Fermez-la, tous les deux !»
s'écria Ayota de l'autre côté du couloir.
« Tuez-le si vous tombez contre lui. En attendant, foutez-lui la paix !»
Frémy et Stooks se turent. Ayota s'assit, le dos collé au mur de sa cellule. Il regardait le sol entre ses pieds d'un air morose. Il avait une entaille au-dessus d'un œil. Des autres cellules me parvenaient des gémissements et parfois un grognement de douleur. Une des femmes pleurait tout bas. La porte au fond du couloir s'ouvrit et Percy apparut, un seau au creux du coude. Il s'arrêta pour regarder l'applique qui était tombée. Il posa son seau et renfonça le brûleur dans le trou irrégulier. Cette fois, il resta en place. Percy sortit de la poche de son ample chemise une allumette en bois qu'il frotta contre un bloc de pierre et approcha du petit embout en cuivre du brûleur. Celui-ci s'alluma dans un souffle. Je m'attendais à une remarque de la part de Frémy, mais cet individu raffiné semblait à court de réflexion humoristique pour le moment.
« Nomade !»
annonça Percy à travers la goutte d'eau qui avait été une bouche autrefois.
« Qui, Omad ?»«
Donne !»
dit Ayota. Percy lui tendit un petit disque pioché dans son seau. On aurait dit une pièce de 5 cents en bois, comme dans ce vieux dicton qui disait qu'il ne fallait jamais en accepter.
« Et file-en aussi au nouveau. S'il n'en a pas besoin, l'incapable, si. »«
C'est de la pommade ?» demandai-je.
« Qu'est-ce que tu veux que ce soit ?»
Ayota entreprit d'en étaler sur sa large nuque.
« Viens !»
me dit Percy.
« Hein ? Oh, oh !»
Je devinais qu'il demandait au nouveau de tendre la main, alors je la glissai entre les barreaux. Il laissa tomber un nickel dans ma paume. « Merci, Percy. » Il me regarda. Son expression trahissait de la stupéfaction. Peut-être que personne ne lui avait jamais dit merci, pas à Deep Maline en tout cas. Une épaisse couche de matière malodorante recouvrait le petit disque en bois. Je m'accroupis près de Ahmet et lui demandai où il avait mal.
« Partout, » répondit-il et il essaya de sourire.
« Où est-ce que ça fait le plus mal ?» Pendant ce temps, Percy poursuivait sa tournée entre les cellules avec son seau en répétant d'un ton monotone
« Ahmet ! Ahmet ! Vive Ahmet ! »
Les genoux, les épaules, Le pire, c'est les boyaux, évidemment, mais il n'y a aucune pommade pour ça.
Il retint son souffle quand j'appliquais la pommade sur ses coupures au genou, mais il poussa un soupir de soulagement lorsque je massais l'arrière de ses jambes et de ses épaules. Du temps où je jouais au football, je me faisais masser et parfois je massais les autres après les matchs et je savais où appuyer.
« Ça fait du bien, » dit-il. « Merci. »
Il n'était pas sale, pas trop sale, du moins contrairement à moi. J'entendais encore Kéline s'écrier « Emmène-le, il est sale !» Et c'était certainement vrai. Mon séjour à Empis n'avait pas été de tout repos. Je m'étais affalé dans la boue d'un cimetière, notamment, et j'avais visité la salle des tapis où il faisait plus chaud que dans un sauna. J'imagine qu'il n'y a pas de douche ici.
Non. Avant, il y avait l'eau courante dans les vestiaires, du temps où ils organisaient encore des vrais jeux. Et maintenant, il n'y a plus que des seaux. Et juste de l'eau froide. Mais...
Aïe ! Pardon, vous êtes tout noué là-haut, dans la nuque.
Tu pourras faire une toilette de chat après la prochaine récréation. C'est comme ça qu'on dit. Mais en attendant, tu vas devoir faire avec.
Vu votre état, et à entendre les autres, c'est brutal comme jeu. Même Aïe semble amoché.
Tu verras par toi-même,
dit Stux.
Mais ça va pas te plaire,
ajouta Frémy. Au bout du couloir, quelqu'un se mit à tousser.
Mets ta main devant ta bouche,
cria une femme.
Personne veut attraper ce que t'as à demi.
La quinte de tous se poursuivit. 3. Percy revint un peu plus tard en poussant un chariot chargé de morceaux de poulet pas assez cuits, qu'il lança dans les cellules. Je mangeais le mien et la moitié de celui de Hamet. En face de nous, Ayota balança les os dans les fosses d'aisance et brailla
« Fermez-la, vous tous! J'ai envie de pioncer !»
Malgré cette injonction, il y eut encore quelques bavardages d'après-repas, d'une cellule à l'autre, mais ils se transformèrent vite en murmures avant de cesser. J'en déduisis que le poulet faisait office de dîner. C'était l'heure de se coucher, bien qu'il n'y ait aucun moyen de savoir si c'était le jour ou la nuit. Notre fenêtre, munie de barreaux, ne laissait voir qu'une obscurité complète. Parfois, on nous distribuait du steak, parfois du poulet, et de temps à autre, de maigres filets de poisson. Généralement, mais pas toujours, il y avait des carottes. Et jamais de sucré. Uniquement des aliments que Percy pouvait lancer entre les barreaux. La viande était bonne, rien à voir avec les restes avariés grouillants d'asticots auxquels je m'attendais dans ce cachot, et les carottes étaient croquantes. Il voulait qu'on soit en forme, et on l'était, à l'exception de Demi, qui souffrait d'une sorte d'infection pulmonaire, et de Hamet, qui se plaignait d'atroces douleurs abdominales dès qu'il avalait quelque chose. Que ce soit le matin, le midi ou le soir, les appliques demeuraient allumées. Mais elles étaient si peu nombreuses que Deep Maline baignait dans une sorte de crépuscule permanent, déstabilisant et déprimant. Si j'avais eu la notion du temps en arrivant ici, ce n'était pas le cas. Je l'aurais perdu après 24 ou 36 heures. Les endroits où Aaron m'avait frappé à plusieurs reprises avec sa badine m'élançaient et me brûlaient. J'y appliquais le reste de pommade et ça me soulagea un peu. Je me frottais le visage et le cou. La crasse roulait sous mes doigts. Je finis par sombrer et je rêvais de Radar. Elle galopait, jeune et robuste, entourée d'un nuage de papillons orange et noir. J'ignore combien de temps je demeurais endormi, mais quand je me réveillais, le silence régnait dans le long alignement de cellules, à l'exception des ronflements, d'un paix occasionnel et des quintes de toux de Domi. Je me levais pour aller boire l'eau du seau, en prenant soin de boucher avec mon doigt le trou sous le gobelet en fer blanc. En regagnant ma couverture, je vis que Hamet m'observait. Les cernes enflées sous ses yeux ressemblaient à des coquards.
« Tu n'es pas obligé de me rédimer. Je retire ce que j'ai dit. » De toute façon, je vais y avoir droit. Il me balance dans tous les coins comme un sac de graines, et ça, c'est juste la récréation. Qu'est-ce que ce sera quand viendra le 1 contre 1?
Je ne sais pas. Je faillis lui demander ce qu'était le 1 contre 1, mais je devinais qu'il s'agissait d'une sorte de tournoi sportif sanglant style MMA. 32, comme je l'avais déjà compris, était un chiffre divisible jusqu'à 1. Et la récréation, c'était un entraînement, un échauffement avant le grand événement. Il y avait une chose qui m'intriguait davantage. Sur la route de Lillimar, j'ai croisé un homme et un garçon, des personnes grises.
Elles le sont presque toutes, dit Amé, depuis que Flight Killer est revenu du puits obscur.
Il eut un sourire amer. Cette seule phrase renfermait 1000 histoires annexes, et j'avais envie d'en savoir plus. Mais dans l'immédiat, je me concentrais sur l'homme à la peau grise qui marchait en s'appuyant sur une béquille. Ces gens venaient du front de mer.
Ah oui, murmura Amé avec indifférence.
Et l'homme m'a dit quelque chose. D'abord, il m'a traité d'homme saint.
C'est la vérité, non? Tu n'as pas une trace de gris sur toi. De la crasse, oui, mais pas de gris.
Et l'homme a ajouté, devant lequel d'entre eux ta mère a relevé ses jupes pour que tu gardes ce beau visage. Vous savez ce que ça veut dire? Cette fois, Amé se redressa et me dévisagea en ouvrant de grands yeux.
Par tous les papillons oranges qui ont jamais existé, d'où c'est que tu viens?
En face de nous, Ayota grogna et remua dans sa cellule.
Vous savez ce que ça veut dire ou pas?
Il soupira.
Depuis des temps immémoriaux, les Galiens ont régné sur Empis. Tu le sais, ça, hein?
Je lui fis signe de continuer.
Pendant des milliers et des milliers d'années.
De nouveau, c'était comme si deux langues se mélangeaient dans mon cerveau, de manière si parfaite qu'elles en formaient presque une seule.
Et en un sens, il continue à régner, poursuivit Amé. Flight Killer étant ce qu'il est, à supposer qu'on puisse toujours dire « il » en parlant de lui et qu'il ne se soit pas transformé en une créature du... Mais... Ah merde, de quoi je parlais?
Des Galiens.
Cet arbre famital a été abattu, même si certains affirment que quelques membres ont survécu.
Je savais que tel était le cas, car j'en avais rencontré 3. Pas question cependant de le dire à Amé.
Mais fut un temps, même lorsque le père de mon père vivait encore, où les Galiens étaient nombreux. Hommes comme femmes, ils étaient beaux. Aussi beaux que les monarques que Flight Killer a éradiqués.
Il ne les avait pas tous éradiqués, mais là encore, je n'avais pas l'intention de détromper Amé.
Et ils étaient très portés sur la chose.
Son sourire dévoila des dents étonnamment blanches et saines dans ce visage maladif.
Tu sais ce que ça veut dire, hein?
Oui.
Les hommes plantaient leurs graines partout. Pas uniquement ici ou dans la citadelle, mais aussi sur le front de mer, à Disk, à Ouloum, et même dans les îles vertes au-delà d'Ouloum, paraît-il.
Il m'adressa un sourire en coin.
Les femmes n'étaient pas contre une petite aventure discrète, elles non plus, à ce qu'on raconte. Des hommes et des femmes en rut, mais très peu de viols, car beaucoup de gens du peuple sont heureux de pouvoir coucher avec des individus de sang royal. Et tu sais ce qui découle de ce genre d'activité, hein?
Des bébés?
Oui, exactement, des bébés. C'est leur sang, Charlie, qui nous sauve du gris. Qui sait quel prince, quel courtisan, ou bien le roi en personne, a couché avec ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ou même ma mère. Résultat, j'ai pas une seule tache de gris sur moi. Comme Aïe, cette espèce d'homme singe. Pas une tâche. Domi et Black Tom, pas une tâche. Stook et Frémy, Jaya et Eris, Double, Bolt, Dogfried, tous les autres. Et toi, qui sais rien de rien? J'en viens me demander.
Quoi? Murmurai-je. Qu'est-ce que vous vous demandez?
Peu importe.
Il se rallongea et posa son bras maigre sur ses yeux tuméfiés.
« Simplement, réfléchis-y à deux fois avant de nettoyer la crasse. »
Du bout du couloir, celui qu'ils appelaient Gully beugla.
« Y en a qui veulent dormir ici ?»
Amé ferma les yeux. 4. Je ne dormais pas. Je réfléchissais. L'idée que les individus prétendument sains soient immunisés face à l'épidémie de grippe me paraissait raciste. Je pensais à ces demeurés sectaires qui affirmaient que les blancs étaient naturellement plus intelligents que les noirs. J'estimais, je l'ai déjà dit, que ces gens dits de sang royal enfilaient leurs pantalons une jambe après l'autre, comme ces malheureux individus qui suaient sang et eau sur les tapis de course pour fournir de la lumière au grand intendant. Mais il fallait tenir compte de la génétique, n'est-ce pas? Les habitants d'Empis l'ignoraient peut-être, mais pas moi. Un mauvais mélange de gènes pouvait avoir des conséquences fâcheuses, et les familles royales excellaient dans ce domaine. L'hémophilie, par exemple. Ou bien une malformation faciale connue sous le nom de prognatisme habsbourgeois. J'avais appris tout ça en 4e, en cours d'éducation sexuelle, figurez-vous. Alors, peut-être existait-il bien un code génétique qui offrait l'immunité face au gris, cette maladie qui vous déformait? Dans un monde normal, la personne à la tête du pays voudrait sauver ces gens, me disais-je. Dans celui-ci, le dirigeant, Fly Killer, un nom qui n'inspirait pas un sentiment de sécurité, cherchait au contraire à les éliminer. Et sans doute que ces malades ne vivaient pas très longtemps. Qu'on appelle ça une malédiction ou une maladie, c'était un phénomène évolutif. En définitive, qui resterait-il? Les soldats de la nuit, sans doute, mais à part ça, Fly Killer était-il entouré d'un groupe de partisans protégés? Dans ce cas, sur qui régnerait-il une fois que les gens sains auraient été éradiqués et que les gens gris seraient tous morts? Quel était le dénouement? Y en avait-il seulement un? Autre chose, Ahmet affirmait que les Galliens avaient régné sur Empis depuis des temps immémoriaux, mais l'arbre famital avait été abattu. Il avait semblé se contredire cependant. En un sens, il continue à régner. Cela voulait-il dire que Fly Killer appartenait à la maison des Galliens? Comme dans un roman de George R. R. Martin, axé sur la royauté? Ça ne collait pas. Léa m'avait dit, par l'intermédiaire de sa jument évidemment, que ses 4 sœurs et ses 2 frères étaient morts, ainsi que sa mère et son père, le roi et la reine, supposais-je. Alors, qui restait-il? Un bâtard, comme Jon Snow dans Game of Thrones, ou l'ermite fou qui vivait quelque part dans les bois? Je me levais et m'approchais des barreaux. Un peu plus loin, dans le couloir, la dénommée Jaya était collée au sien. Un bandage était enroulé de travers autour de son front, transpercé par une fleur de sang au-dessus de son œil gauche. « Ça va ? » murmurai-je. « Oui. Il ne faut pas parler, Charlie. C'est l'heure de dormir. Oui, je sais, mais... Quand le gris est-il apparu ? Depuis combien de temps ce Fly Killer est-il au pouvoir ?» Elle réfléchit. Finalement, elle répondit « Je ne sais pas. J'étais encore une enfant dans la citadelle quand tout ça est arrivé. » Je n'étais pas plus avancé. J'étais encore une enfant. Ça pouvait vouloir dire 6, 12 ou même 18 ans. Je supposais que l'apparition du gris et la prise de pouvoir par Fly Killer remontaient à 12 ou 14 ans à cause d'une phrase qu'avait prononcée M. Bowditch, « Les lâches offrent des cadeaux ». Comme si, voyant ce qui se passait, il avait gâté ses chouchous et raflé un max de pépites d'or avant de décamper. Et à cause d'une chose qu'avait dite Dora, Radar était encore un chiot lors de la dernière visite de M. Bowditch. La malédiction avait frappé à ce moment-là. Peut-être. Probablement. De plus, pour ne rien arranger, je ne savais même pas si, à Empis, les années correspondaient aux nôtres. « Dors, Charlie, » dit Jaya. « C'est le seul moyen qu'on a de s'évader. » Elle me tourna le dos. « Non, attends. » Dans la cellule d'en face, Ayota émit un grognement, renifla et se tourna. « C'était qui, avant ? Quand ce n'était pas Fly Killer, c'était qui ? Tu le sais ? Elden ? Elden des Galliens ?» Je retournais m'allonger sur ma couverture. Elden. Je connaissais ce nom. Falada, la jument, parlant à la place de sa maîtresse, m'avait raconté que Léa avait eu 4 sœurs et 2 frères. Léa avait vu le pauvre corps broyé de Robert. L'autre frère était mort également, mais elle n'avait pas précisé dans quelles conditions, ni si elle avait vu son corps. Cet autre frère avait toujours été bon avec elle, avait dit Falada. Falada qui n'était autre que Léa elle-même. Cet autre frère se nommait Eldon.